En ce 5 mai, à 2 jours du début du conclave, nous sommes avec notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Violaine Ricourt-Dumas. Alors, la surprise quand même si on savait que le pape était malade, c'est son décès au lendemain de Pâques, le lundi de Pâques, le 21 avril. Alors vous, comment avez-vous appris la nouvelle et où étiez-vous?
J'étais à Bayonne. J'avais vécu ces fêtes de Pâques de manière magnifique. Et en particulier les vigiles pascales qui se sont succédées entre la cathédrale avec 4 baptêmes adultes, puis avec le chemin de catéchuménal. Inutile de dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, 1 heure ou 2. Mais j'étais en pleine forme, j'étais très heureux de célébrer la résurrection du Seigneur. Et puis c'est le lendemain, à vers 9h30, que quelqu'un m'a annoncé que le pape était décédé. J'ai essayé de vérifier tout de suite sur les médias par informatique, mais il n'y avait pas encore tout à fait la nouvelle, qui n'était pas encore partout sur les médias. En tout cas, j'ai été évidemment, comme tout le monde, surpris. Mais très vite, j'ai été très frappé par cette mort au lendemain d'une journée où nous avons célébré la résurrection du Seigneur, où le pape, après avoir connu un carême extrêmement difficile et éprouvant, hein, on sait son séjour long et douloureux à la clinique Gemelli, il était revenu au Vatican pour sa convalescence, comme on disait, mais il était quand même très affaibli. Et il a fait quelques visites surprises juste avant Pâques et jusqu'à Pâques, qui ont été assez significatives, que je relis comme une espèce peut-être de prémonition, en tout cas comme un beau signe du ciel pour ce pape qui est resté à la barre de cette barque de pierre jusqu'au bout, on peut dire jusqu'au dernier souffle. Le jour de Pâques, il a trouvé encore l'énergie de venir donner sa bénédiction urbi et orbi, c'est-à-dire à la ville de Rome dont il est l'évêque, et au monde pour lequel il a été élu successeur de Pierre et pasteur universel, et qu'il a même réussi à faire un petit bain de foule avec la Papa Mobile sur la recommandation de son infirmier, mais certainement pas sur les indications de ses médecins. Et heureux d'avoir pu traverser encore le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu, comme il disait. Et puis, c'est au début de l'octave de Pâques, le lendemain de la résurrection, qu'il a connu sa Pâques lui-même. Donc c'est quand même très, très beau, hein. Et parmi ces visites surprises qu'il a faites auparavant, il y a eu une petite visite à Sainte-Marie-Majeure, ce qui est assez significatif aussi, car vous savez qu'avant chacun de ses voyages apostoliques, il faisait une visite à Sainte-Marie-Majeure pour recommander son voyage à la Vierge Marie, devant l'icône Salus Populi Romani, pour laquelle il avait une particulière affection. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été inhumé selon son choix, comme d'autres papes, je pense à Saint Pie V, par exemple, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure et non pas dans la basilique Saint-Pierre. Et il revenait, après sa visite, rendre grâce à la Vierge Marie en offrant un bouquet de fleurs à l'icône Salus, devant l'icône Salus Populi Romani. Mais avant son dernier voyage, le voyage qui l'a conduit au royaume des cieux, hein, dans la vie éternelle, eh bien, il est allé encore saluer une dernière fois la Vierge Marie à Sainte-Marie-Majeure.
Alors justement, vous, Monseigneur Ayet, vous deviez aller à Rome avec le jubilé des ados à partir du 26 avril, donc vous avez assisté aux obsèques.
Et oui, c'est assez étonnant, c'est providentiel bien sûr, mais la plupart des gens qui étaient à Rome pour participer aux funérailles du pape, étaient là parce qu'ils venaient pour le jubilé des ados et pour la canonisation de Carlo Acutis, qui avait été reporté in extremis, évidemment, puisque le pape n'était pas disponible. Et puis, en plus, il est mort entre-temps. Mais donc, ce qui fait qu'il y a eu une affluence assez extraordinaire sur la place Saint-Pierre et sur la Via della Conciliazione, avec des groupes d'ados, parce que de Rome, de Milan, de Turin, d'Italie, de tous les pays sans doute, mais donc qui a évidemment fait que l'Assemblée était particulièrement nombreuse ce jour-là. Et je pense que pour nos ados à nous, qui venaient aussi pour la canonisation de Carlo Acutis, et puis pour voir le pape, évidemment, à l'occasion de ce jubilé des ados, ont participé à un événement quand même qui n'est pas banal. Et je pense que c'était un événement, une belle expérience d'église, en tout cas, qu'ils ont vécu sur la place Saint-Pierre ce, ce jour-là.
Donc vous étiez un groupe d'ados du diocèse.
Oui, oui, on avait...
Vous avez donc vécu quand même le jubilé des ados comme
le lendemain, le dimanche, c'était la deuxième messe des novendiales, hein, comme vous savez, les messes, les neuf jours où les cardinaux recommandent le pape au Seigneur, à partir du jour de ses funérailles. C'est le cardinal Parolin, ancien secrétaire d'État, qui présidait cette messe, et il a évidemment quand même fait allusion à ce jubilé des ados, puisque la plupart, beaucoup d'ados étaient évidemment présents sur cette place.
Vous ne l'avez pas signalé, mais le pape a rencontré aussi le vice-président des États-Unis juste avant de mourir.
C'est vrai, oui. Alors j'espère que ce n'est pas lui qui l'a fait mourir.
Non, je dis ça parce que Donald Trump a publié ce week-end une photo de lui en pape. Peut-être que vous l'avez vu.
Oui,
j'ai vu
ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, je trouve que c'est complètement déplacé, mais ça fait partie parfois de l'humour américain un peu déconcertant.
Vous avez publié un communiqué pour saluer la mémoire du pape et puis vous avez pointé un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous retenez de son pontificat ?
Alors évidemment, c'est un communiqué qu'on fait assez à chaud, dans lequel on dit en synthèse quelques éléments, on n'a pas encore assez de recul. J'ai aussi présidé deux veillées de prière, ou messe, donc à Pau, à Saint-Jacques et à la cathédrale de Bayonne, pour pouvoir rassembler aussi le peuple chrétien de notre diocèse, pour prier pour le pape et rendre grâce pour ses 12 ans de pontificat. J'ai indiqué un certain nombre de choses, sans doute, dans mon communiqué. D'abord pour dire que c'est un homme qui a été courageux, qui s'est donné sans compter à sa charge jusqu'au bout. Vous savez qu'il ne prenait jamais de vacances, qu'il restait sur place, même s'il faisait plus d'audience au mois de juillet, mais en tout cas, il était sur place et continuait à travailler. Et il est resté donc en tenue de service, hein, jusqu'au bout. Donc ça, c'est la première chose que j'ai voulu saluer du pape François. Ensuite, son pontificat, il est tout entier dans le nom qu'il a choisi, un peu insolite, puisque c'est la première fois que le nom de François d'Assise est choisi par un pape, et en plus par un jésuite, donc c'est d'autant plus insolite. Et ce nom, comme vous vous souvenez, il l'a choisi de manière très précise, en faisant référence, sans doute, à El Poverello, comme on dit en italien, c'est-à-dire le petit pauvre. Donc il a mis son pontificat sous le signe de la pauvreté, la simplicité sans doute de son mode de vie, mais aussi parce qu'il était toujours très soucieux des pauvres, et ça, on peut dire que c'est une des marques de fabrique, si je puis dire, du pontificat de François. Mais il y a plus que ça, on pense à cette... événement de la vie de François d'Assise qui était déterminante aussi pour le choix par le pape François de ce patronyme pour son ministère pétrinien, c'est la rencontre de François d'Assise converti déjà avec le Seigneur dans la petite église en ruine de San Damiano en bas d'Assise et où il entend Jésus depuis le crucifix lui dire François va réparer mon église. Et donc on sait sans doute que les congrégations générales qui ont lieu actuellement pour le conclave qui s'approche le 7 mai prochain, les congrégations générales qui avaient précédé le conclave, qui l'a élu pape, ont beaucoup insisté sur la nécessité des réformes au sein de l'Église, en particulier de la curie romaine. Et sans doute que ce pape s'est attaché particulièrement à cette réforme extérieure de la curie. Ça a mis des années sans doute, mais enfin ça a abouti, et puis à la synodalité dans l'Église, qui est un des aspects les plus importants de la réforme qu'il a promue pour permettre à tous les baptisés de participer dans la communion à la mission de l'Église qui reste d'annoncer l'Évangile au monde d'aujourd'hui. Mais je pense bien que la réforme, la réparation à laquelle François d'Assise était appelé par le Seigneur, était d'abord une réparation d'ordre intérieur et spirituel. Hein, les ordres mendiants au XIIe et XIIIe siècle ont été choisis par le Seigneur pour susciter une réforme profonde, de plus grande conformité avec l'Évangile, de radicalité évangélique, et à travers la pauvreté en particulier, et aussi pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Hein, et on voit saint François d'Assise avec ses frères mineurs, deux par deux, aller annoncer l'Évangile de ville en village, comme Jésus dans l'Évangile. Donc j'y vois là deux aspects importants du pontificat de François. D'abord, dans la suite et avec son charisme propre de latino-américain de ses prédécesseurs, l'élan missionnaire qu'il a promu avec son exhortation apostolique programme, la joie de l'évangile, hein, Evangelii Gaudium. Et puis aussi l'appel à la sainteté, vous voyez. On n'a pas été assez attentif sans doute, mais à cette exhortation apostolique qui n'avait pas été précédée d'effets d'annonce comme les autres grands textes qu'il a promulgués, qui datent donc de 2018. Gaudete et exultate, soyez dans la joie et dans l'allégresse, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, qui vient de la huitième béatitude des persécutés pour la justice, et sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Donc comme s'il voulait nous dire que la réforme qui sous-tend toutes les réformes nécessaires dans l'Église, c'est d'abord la réforme intérieure qui s'appelle la sainteté, et que nous sommes d'abord appelés à devenir des saints, et que, comme disait Bernanos, eh bien, l'Église a besoin non pas de réformateurs, mais de saints, ou pour le dire autrement, les vrais réformateurs dans l'Église, ce sont les saints.
Alors le pape François, loin s'en faut, n'a pas fait l'unanimité dans l'Église. Il y a eu des cardinaux qui se sont un peu opposés au pape à travers des doubiens. C'était un peu inédit quand même que des cardinaux publiquement comme ça interpellent le pape.
Ah oui, ça, les interpellations du pape, des papes précédents ont existé, mais on les a un petit peu oubliés. Non, c'est sûr que ce pape avait un style assez spontané, qui pouvait être un peu provocateur, qui parlait parfois sans filtre. On se rappelle aussi tout ce qu'il a dit sur l'avortement, par exemple, en disant que ceux qui le pratiquaient étaient des tueurs à gages, que ce qu'on faisait dans les camps nazis, on le fait aujourd'hui avec des camps blancs, ce qui n'a pas été tellement retenu par la presse, mais c'était un discours assez récurrent. Donc le pape était assez provocateur, et au sein de l'Église, comme à l'extérieur de l'Église, et donc je pense qu'il a en effet provoqué des tensions et parfois des réactions un peu opposées, contradictoires.
Qu'est-ce que vous attendez du nouveau pape alors qu'il va être bientôt...
Mais moi, j'ai pas de pronostic à faire. Je pense que les cardinaux, après avoir discuté ensemble plusieurs jours, ces fameuses congrégations générales, après avoir fait connaissance, parce que le pape a renouvelé, comme vous le savez, beaucoup le Sacré Collège. Normalement, il doit y avoir 120 électeurs maximum. Bon, là, il y en aura 133 parce qu'il a fait encore un consistoire il y a quelque temps. Et donc de cardinaux électeurs. Après, les cardinaux, c'est dans une atmosphère de lumière, de prière, pardon, très liturgique, dans la chapelle Sixtine, qu'ils vont être appelés à choisir celui qui semble le plus conforme à la volonté de Dieu pour aujourd'hui. L'Esprit Saint assiste l'Église. C'est pas l'Esprit Saint pour autant qui va être l'acteur principal, si je puis dire, en tout cas immédiat, de l'élection du pape, parce que ce sont des hommes hein, qui ont leurs opinions, leur manière de voir, leur charisme, leur sensibilité. Et ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint assumera le choix des cardinaux. Mais ce sont les cardinaux qui vont élire le pape. Sauf que, une fois qu'ils l'auront élu, eh bien, on reconnaîtra que c'est celui que le Seigneur veut pour ce temps qui vient comme successeur de Pierre. Hein, on ne cherche pas, évidemment, un successeur à François, comme on ne cherchait pas un successeur à Benoît ou à Jean-Paul, mais il cherche un successeur de Pierre. Hein, et qu'est-ce qu'on peut attendre du successeur de Pierre? Qu'il soit fidèle au charisme pétrinien. Et le charisme pétrinien, c'est de rassembler dans l'unité de la foi. Hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette foi-là, cette profession de foi, que le Christ a fondé son Église, telle que les portes de l'Hadès ne prévaudront jamais contre elle, et qu'il soit prêt à affirmer ses frères dans la foi, cette mission que Jésus a donnée particulièrement à Pierre avant sa passion.
Monseigneur Hayet, nous reprenons avec vous cette émission pour parler d'un événement qui a eu lieu fin mars, début avril. C'était l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, où il y a eu quand même pas mal d'événements, puisqu'il y a eu des changements à la tête de la Conférence des évêques de France, et puis bien sûr le sujet des abus qui s'est invité largement. Alors déjà, les changements à la tête de la Conférence des évêques de France et à l'intérieur aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Quelques mots, oui. D'abord, dire que cette assemblée plénière s'est passée, comme d'habitude, dans un climat paisible, fraternel. Hein. Je pense que c'est un lieu où les évêques exercent la collégialité et donc la communion entre eux, qui est une communion d'abord fraternelle. autour du Christ qui reste central, évidemment, grâce au temps de prière commune que nous avons chaque jour et qui jalonne un peu tous nos travaux. C'était une assemblée assez décisive dans le sens où il s'agissait de renouveler le président de la Conférence des évêques de France, qui est arrivé au terme de ses deux mandats, et l'un des deux vice-présidents aussi était arrivé au terme de ses deux mandats. Et donc, ben forcément, ça a amené à des changements à la tête de certaines commissions. Et aussi, dans la suite du chemin de transformation de la CEF, il y avait donc l'élection des membres du nouveau Conseil permanent qui assiste la présidence de la Conférence des évêques de France. Sans surprise, si je puis dire, c'est le cardinal Jean-Marc Aveline qui a été élu président de la Conférence des évêques de France au premier tour avec une majorité écrasante.
Pourquoi sans surprise ?
Sans surprise parce que déjà lorsque s'était posée la question du renouvellement du mandat de Mgr de Moulin-Beaufort il y a 3 ans, son nom était apparu déjà de manière assez précise et lui avait dit « Non, laissez-moi pour l'instant, j'arrive à peine comme archevêque de Marseille, il n'est pas encore cardinal ». Et je suis en train de préparer les rencontres de la Méditerranée, etc. Donc, surtout, mais entre nous, on en parlait déjà beaucoup, et finalement, il a été élu comme ça devait l'être. Et pour ma part, j'en suis très heureux. Je pense qu'il a une personnalité à être un homme d'unité, de communion. Il a une certaine bonhomie, il est rond, donc ça rassure, et puis il est subtil, il est très fin.
Vous nous parlez du futur pape là, ou du président
de la Conférence ? Non, je parle du président de la Conférence évêque de France pour l'instant.
Et s'il est élu pape, qu'est-ce qui se passe ? Il ne peut pas être président de la Conférence épiscopale en même temps.
On serait content qu'il fasse les deux à la fois, mais non, ce ne sera pas possible évidemment, parce qu'il ne sera plus évêque de France.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement alors ?
Alors donc il y a eu un premier vice-président qui a été réélu pour un mandat de 3 ans, c'est Mgr Vincent Jordy, puisqu'il a encore un mandat à faire. Et puis Mgr Dominique Blanchet était arrivé au terme de ses deux mandats. Donc c'est Mgr Benoît Bertrand qui a été élu comme deuxième vice-président de la Conférence des évêques de France. Alors du coup, ça a changé quelque chose. Par exemple, parmi les élections importantes, celui de la commission doctrinale, finalement, c'est Mgr de Moulin-Beaufort, qui a été élu comme président de la commission doctrinale de l'épiscopat. Et pour le conseil épiscopal de l'enseignement catholique, qui est quand même un poste assez stratégique, surtout en ce moment, à travers les crises que nous traversons au niveau de l'enseignement catholique, face à un État, à des parlementaires qui sont très opposés, très hostiles, qui ont réussi à faire mettre en place une commission parlementaire d'enquête. Alors, sous prétexte des abus qu'il y a pu avoir, effectivement, dont on reparlera dans nos établissements catholiques, aussi une hostilité frontale par rapport à la loi Debré, au caractère propre d'un enseignement catholique dans le paysage français. Et donc là, c'est le Mgr Mathieu Rouget, qui est un fin connaisseur aussi des politiques, puisqu'il a été aumônier des parlementaires pendant des années, qui a été élu à ce poste stratégique.
Alors, Mgr Rayet, cette assemblée plénière a commencé par 2 jours consacrés à la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. C'était programmé, c'était un genre de relecture de là où vous en étiez au niveau de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église avec les évêques, et vous avez reçu des victimes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ?
Alors, c'était une session qui était prévue de longue date pour faire un bilan d'étape par rapport au groupe de travail qui avait rendu leurs conclusions, dont beaucoup avaient été promulguées par la Conférence des évêques de France, et c'était pour voir comment les résolutions prises à partir de ces groupes de travail étaient mises en œuvre dans nos diocèses. Donc c'était... Bon, ça a été une session, en fait, qui a été très paisible aussi, qui a rassemblé beaucoup de monde, sans doute les évêques, avec pas mal de responsables de services, d'associations aussi, des experts, des différents groupes de travail, d'ailleurs, qui avaient était mise en place après le rapport de la CIAS. Et puis, il y avait des victimes et des associations, des collectifs de victimes, dont d'ailleurs le collectif de Bétaram, dont les représentants principaux avaient été reçus la veille par le président de la République de France et les vice-présidents, et qui ont été appelés à participer d'abord de manière habituelle, normale. Ils pouvaient prendre la parole quand il y avait des moments de prise de parole libres, après des tables rondes très bien organisées, coordonnées par des journalistes de la presse catholique. Et il y a eu un témoignage poignant d'une des victimes de Bétaram, en particulier, qui a pris la parole longuement et à la demande donc de, des organisateurs, évidemment. Et voilà, donc ça a permis certainement à la fois de voir qu'il y avait du travail qui se faisait, même si il y a encore beaucoup de travail à faire, bien entendu, dans nos diocèses, et d'une certaine manière d'associer encore plus les victimes à ce travail de reconnaissance et de réparation dans lequel nous sommes engagés, et de prévention, et d'une certaine manière de réduire un peu la distance entre l'Église et les victimes. Je pense à Olivier Brunel qui a parlé du collectif de Bétaram, qui nous a dit de manière très poignante son témoignage quand il était enfant. À Bétaram, il a subi donc des violences sexuelles, des agressions sexuelles d'un surveillant général qui est parti depuis dans d'autres établissements, comme on le sait, mais pour qui tout est prescrit. Donc c'est la double peine pour les victimes. Et il a dit que par sa participation à cette session, bien, il avait vu que ça l'avait un peu réconcilié avec l'Église.
Donc c'est quand même Est-ce que c'est important. Vrai, dans la Croix, il raconte que lors de cette séance, des évêques ont pleuré suite à ce témoignage. Est-ce que c'est vrai ?
C'était très émouvant, oui. Moi, tout de suite, je suis d'ailleurs allé le voir quand il est revenu à sa place, en lui disant que j'admirais son courage, je le remerciais pour son témoignage, et que je lui redemandais pardon au nom de l'Église. Et il m'a dit « Monseigneur, nous avons besoin de vous ». Et j'ai pu rentrer en contact aussi avec une autre victime qui avait parlé, après une table ronde, la première, je crois. Je suis allé à sa rencontre et nous avons décidé de nous voir, nous devons nous rencontrer très prochainement. C'était une manière pour moi d'entrer en contact avec ce collectif. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas non plus interférer avec la congrégation de Bétaram, avec laquelle j'étais quand même en lien précis pour les encourager à faire quelque chose, non seulement dans l'ordre de la communication, mais aussi dans l'ordre de la reconnaissance et de la réparation. Et donc, c'était une occasion pour moi tout à fait providentielle d'entrer en contact avec ce collectif.
Y a-t-il d'autres sujets que vous avez abordés lors de l'Assemblée plénière à Lourdes ?
Oui, certainement, l'Assemblée catholique, puisqu'on a on a élu un nouveau secrétaire général qui n'est pas issu du bocal, ce que je trouve assez judicieux dans le contexte actuel, où il faut vraiment négocier et parlementer de manière de pied à pied avec les instances gouvernementales et parlementaires. Guillaume Prévost, je crois, voilà, qui est issu plutôt de la société civile, mais du monde de l'éducation quand même, qui a même travaillé comme expert au ministère de l'Éducation nationale, dont il s'est un petit peu éloigné après, qui était secrétaire général, je crois, d'un think tank sur l'éducation, qui s'appelle Vers le haut, je crois. Et donc je pense que ce choix a été judicieux pour le temps qui vient, pour la défense aussi de l'enseignement catholique et de son caractère propre dans le paysage laïque actuel.
Vous avez parlé aussi de l'intelligence artificielle, je crois.
Oui, nous avons parlé de l'intelligence artificielle, à la fois en saluant les progrès de la technologie, qui sont indéniables, et en même temps peut-être en pointant quelques risques et quelques dangers. Je pense que l'intelligence artificielle ne résoudra pas tout. L'illusion de remplacer l'intelligence humaine, je crois, tombera vite, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'experts aujourd'hui. Je pense à une chose qui n'est pas toujours signalée, mais le déploiement de l'intelligence artificielle aura un impact environnemental énorme, en particulier sur l'eau. On sait que l'eau est un une des grandes, des grandes, le manque d'eau, en tout cas pour une bonne partie de notre planète, est une des grandes questions d'aujourd'hui. Or, on a besoin de beaucoup d'eau d'électricité pour développer l'IA dans les conditions actuelles, qui renforcera encore un certain nombre de pouvoirs financiers. Et puis la deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas créative en elle-même. Elle s'appuie forcément sur l'intelligence humaine, sur des banques de données, dans lesquelles on découvre aussi parfois qu'il y a des biais idéologiques auxquels on n'échappera pas complètement. Et donc, moi, je reste très prudent par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Vous ne préparez pas vos homélies avec l'intelligence artificielle ?
Sûrement pas. Parce que ça me manquerait, il manquerait le contact direct avec le peuple auquel je m'adresse. Et je vois bien que l'intelligence artificielle n'est pas forcément l'intelligence du cœur.
Merci Monseigneur Hayen, nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie du diocèse.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Monseigneur Hayen, nous voici de retour dans cette émission diffusée sur Radio Lapourdi et Radio Présence. Alors, la Semaine Sainte s'est déroulée dans notre diocèse juste avant donc, le décès du pape François, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec 90 catéchumènes, je crois, cette année, ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant, puisque l'année dernière, ils étaient 40. Vous les avez tous vus, côtoyés pendant ces derniers jours de préparation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces catéchumènes ?
Ben c'est un des grands sujets de l'espérance de l'Église d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai que nous, ces 90, ça reste des chiffres modestes, même si c'est plus du double de l'an dernier, et qu'il y a une croissance, on le voit bien ces dernières années. Mais nous, on est encore dans un diocèse de vieille chrétienté, où la pratique du baptême des petits-enfants, même si elle tend à diminuer comme partout, reste encore importante. Là où dans beaucoup d'autres diocèses, ça n'est plus le cas, et on a des croissances exponentielles extraordinaires. On voit bien à l'échelle nationale, vous avez eu les chiffres, c'est une augmentation quasiment du simple au double depuis 2 ans. Donc c'est quand même très important.
Et justement, ça compense finalement le fait qu'il y ait moins de baptêmes de petits-enfants
ça compense pas. Non, ça ne compense pas. Mais ça ne, non seulement ça ne compense pas en nombre, mais on n'est pas dans la même perspective. L'enfant est baptisé par ses parents parce que c'est une tradition, parce qu'ils veulent transmettre la foi, pour certains quand même, avec une vraie volonté de transmettre la foi. Mais là, ce sont des adultes qui, dans un monde où ils ont grandi sans Dieu, on peut dire, pour la plupart, même si certains viennent quand même d'un monde traditionnellement chrétien, c'est ça qui est quand même le plus étonnant. Dans un monde qui passe son temps à exclure Dieu de la sphère publique, de la vie des hommes, où l'on est souvent non seulement indifférent, mais parfois hostile à ce que représentait l'Église, dans un monde où l'Église est éclaboussée par les scandales, qui sont largement médiatisés, on en a peu parlé de cette question des abus, mais ça reste quand même une blessure profonde pour l'Église, eh bien, malgré tout, malgré ces scandales, le Seigneur touche des cœurs, et ces hommes et ces femmes viennent frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême. Et avec cette nouveauté que je pressens, et nous le partageons aussi avec d'autres évêques, c'est qu'il y a 10 ans, le catéchumène adulte est quelqu'un qui, pour la plupart, en tout cas des cas, fait une démarche personnelle privée. Il a rencontré le Seigneur dans le sens d'un accomplissement personnel. Il a besoin de cette relation personnelle, privée avec le Seigneur, individuelle. Alors que là, on sent qu'il y a une dimension ecclésiale chez beaucoup de ces adultes, jeunes adultes d'ailleurs pour la plupart, qui demandent le baptême. On sent qu'ils ont déjà un contact avec une communauté ecclésiale à travers une assemblée liturgique par exemple, à travers des chrétiens, et ils ont le désir de rejoindre d'autres chrétiens ou d'autres catéchumènes pour assumer cette dimension profondément communautaire et ecclésiale. Ça veut dire qu'ils ont conscience que c'est dans l'Église, telle qu'elle est, avec ses grandeurs, ses témoignages et ses témoins qui restent authentiques et qu'ils rencontrent, mais aussi ses contre-témoignages et ses scandales, c'est dans l'Église qu'ils veulent rencontrer le Christ, qu'ils veulent vivre leur vie chrétienne.
C'est plutôt bon signe pour la suite, ça veut dire qu'ils resteront, on espère.
Alors il faut espérer, ça reste quand même le grand défi. Hein. Comment arriverons-nous à fidéliser tous ces catéchumènes adultes qui prennent contact avec l'Église à travers leur catéchuménat. Comment est-ce qu'on organisera le néophytat? C'est une des grandes questions qui commence à être mise en œuvre dans nos communautés chrétiennes.
Le dimanche 11 mai, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Alors, parlons un peu du séminaire. Les portes ouvertes ont eu lieu le 6 avril dernier. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de visiteurs qui sont venus rencontrer les jeunes séminaristes, les jeunes propédotes. On n'aura pas d'ordination sacerdotale cette année.
Il y aura une ordination diaconale, parce que vous savez qu'il y a deux séminaires diocésains. Hein, il y a le séminaire diocésain des 5 heures de Jésus de Marie, puis il y a le séminaire diocésain missionnaire, Redemptoris Mater Saint-Jean-Paul II, qui forme des prêtres aussi pour le diocèse. Et il y aura donc l'un d'entre eux qui sera ordonné diacre le 4 octobre prochain. Donc il y aura au moins une ordination diaconale en vue du sacerdoce. Voilà. Et certainement aussi, je l'espère, une ordination diaconale d'un nouveau diacre permanent. Oui, c'est une belle journée qui... Alors, ils n'ont pas appelé ça portes ouvertes, ils ont appelé ça journée découverte pour changer un peu. Où il y a eu en effet beaucoup de monde dans une atmosphère tout à fait sympathique. Je crois que la journée de prière pour les vocations est bien préparée par le service diocésain des vocations, qui, vous savez, s'est un peu charpenté cette année, avec des prêtres qui se forment au fameux cycle Saint-Jean-Paul II, qui est un cycle de discernement pour les garçons de leur vocation, d'une manière générale, et qui peut aboutir aussi au discernement d'une vocation spécifique à la vie consacrée ou au sacerdoce, et aussi au cycle Sainte-Thérèse, qui est davantage un cycle de discernement pour les filles. Donc nous avons des prêtres qui sont engagés dans cette formation, qui se rassemblent en cénacle de prêtres, une fois par mois, pour porter ensemble des missions vocationnelles au sein du diocèse, et puis prier évidemment, pour les vocations et invités à prier pour les vocations. Ce service qui a organisé cette année un week-end de discernement pour des jeunes, et je crois qu'il y avait 8 garçons, 2 filles qui ont participé à ce temps, qui étaient des étudiants, hein, pas des scolaires. Et donc tout ça est plein d'espérance pour l'avenir. Voilà, tout ce que je peux dire est engagé en tout cas tous les fidèles à prier pour les vocations, mais mon message, c'est quand même de dire que les vocations spécifiques s'enracinent dans une vocation fondamentale qui est celle du baptême. Hein. Ce sont des baptisés qui sont appelés à donner leur vie dans la vie consacrée ou dans le sacerdoce. Et donc il faut rappeler cette vocation commune du baptême, qui est déjà une vocation sacerdotale, parce que c'est une vocation à se donner soi-même et à offrir sa vie en union avec le sacrifice du Christ. Et je dirais que les vocations spécifiques s'enracinent dans l'humus sacerdotal du peuple de Dieu, qui est un peuple de prêtres. Hein, et donc, je crois qu'il faut beaucoup qu'on assiste là-dessus. Dans une communauté chrétienne, dans une famille, où les baptisés assument leur participation au sacerdoce du Christ par l'offrande de leur vie, en union avec l'unique sacrifice du Christ, eh bien, ça ne peut qu'engendrer des vocations au don total de sa vie pour le service de l'Église.
Le 9 avril dernier, vous avez béni la première pierre de la future maison diocésaine de Bayonne, donc cette future maison qui va se trouver sur le site de Saint-Léon de Marac. Donc ça y est, c'est lancé, les travaux ont commencé. Ça va être fini à peu près quand ?
Écoutez, les travaux ont commencé avant la bénédiction de la première pierre, puisque c'est au début du mois de février. Je crois que les travaux avancent bien, tout dépendra aussi du temps hein, qu'il fait. Mais disons que le projet, c'est que cette maison soit au plus tard ouverte au tout début 2027.
Donc l'ancienne maison diocésaine, pour l'instant, est toujours
opérationnelle. Ne sera détruite qu'à ce moment-là. Elle sera partiellement opérationnelle, puisque nous arrêterons l'hébergement proprement dit et la restauration à partir du mois de septembre prochain. Tout simplement parce que, comme vous le savez, c'est quand même un gouffre financier, surtout du point de vue des fluides hein, et du chauffage, de l'électricité. Donc la maison sera partiellement utilisable, en tout cas pour les groupes, les réunions, etc. Elle le sera jusqu'à l'ouverture de la nouvelle maison diocésaine.
Un petit mot sur celle de Pau, puisqu'on a nos auditeurs béarnais aussi, que ça peut intéresser. Là, pour le coup, c'est bien avancé.
Alors, celle de Pau, ça avance beaucoup plus vite, sans doute, parce que ça commençait plus tôt. Et donc, au dernier trimestre de cette année 2025, la maison devrait être opérationnelle.
Vous allez bénir, bénir la maison
hein. Ah bon, on fera une bénédiction de la maison, bien sûr. Une inauguration de la maison à sa livraison définitive.
Ce mois de mai est ponctué par différentes fêtes de saints du diocèse, ou en tout cas qui ont œuvré dans le diocèse, comme Saint-André Berfournet, fondateur des Filles de la Croix, le 11 mai, Saint-Michel Garicoït, fêté dans le calendrier diocésain le 15 mai. Et puis il y a des anniversaires de béatification, que ce soit sœur...
Alors, canonisation de Sainte-Mariam.
Du bienheureux Louis-Édouard Sestac. Je crois que vous donnerez une messe le 31 mai au refuge Anglette.
C'est les deux événements qui nous intéressent le plus hein, dans le diocèse. Le 10e anniversaire de la canonisation de Sainte Marie de Jésus crucifié. Donc je célébrerai la messe pour ce 10e anniversaire le 17 mai, le jour anniversaire, hein, à Pau, à la maison Saint-Michel. Et puis je célébrerai aussi la messe pour le 10e anniversaire de la béatification de Louis-Édouard Sestac. Donc ce sera notre ami refuge anglais le 31 mai, puisque c'est le jour anniversaire de cette béatification. On se rappelle, en 2015, la venue du cardinal Amato dans notre cathédrale pour ce beau rite de la béatification de notre prêtre diocésain, fondateur du Salon de Marie, Louis-Édouard Sestac.
Et puis la paroisse de la Sainte Famille de Pau fête aussi des jubilés, puisque ce sont les 100 ans de la béatification de Sainte Bernadette et les 100 ans de la canonisation de Sainte Thérèse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anniversaires cette année.
Voilà, beaucoup, beaucoup d'anniversaires.
Les saints sont là pour aussi nous porter. Il faut s'appuyer sur
voilà,
sur
tout à fait.
Prière.
Ça nous rappelle un des grands messages du pontificat de François, hein, que c'est le temps des saints, comme je l'ai écrit.
C'est le titre d'un de vos livres.
Récemment. Ouais. Et donc il faut que nous soyons persuadés que l'appel à la sainteté est déterminant pour la vie de l'Église.
Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler d'un livre que vous venez de publier, Monseigneur Rayet.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Monseigneur Rayet, nous terminons cette émission avec vous sur justement le livre que vous venez de sortir aux éditions Première Partie. L'Église face au monde moderne, où vous nous évoquez le Evangelii Nuntiandi, donc encyclique du pape Paul VI.
Alors on va croire que c'est vraiment une manie chez moi que de parler de cette exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ce document, qui a été publié par le pape Paul VI à la fin de l'année sainte 1975, aura 50 ans le 8 décembre prochain, et je me disais que c'était important de célébrer ce 50e anniversaire parce que c'est un document programme, pas seulement pour Paul VI hein, en 1975, qui est au crépuscule d'ailleurs de son pontificat, mais qui est le document certainement programme de la nouvelle évangélisation, comme dira le pape Jean-Paul II, mais de tout l'élan missionnaire qui est né du Concile Vatican II. Donc, il me semblait important de revenir sur ce texte qui n'a pas pris de ride et qui est certainement déterminant de tous les documents du magistère successifs jusqu'à la joie de l'Évangile du pape François, qui se réfère d'ailleurs immédiatement, directement à Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation du monde moderne, hein, qui était l'exhortation apostolique, la première, qui était écrite par un pape à la suite d'un synode des évêques consacré à cette question de l'évangélisation. Alors, ce petit livre n'a pas beaucoup de prétentions. Il n'est que la mise par écrit de conférences orales, à partir des audios d'ailleurs, que j'ai donné lors d'une session d'évangélisation organisée ou co-organisée par la paroisse Notre-Dame du Rocher Biarritz, puisque c'était à Biarritz, la paroisse étudiante de Toulouse et la communauté NKRM qui vient tous les ans pour faire une semaine d'évangélisation à Biarritz depuis plusieurs années. On en avait fait avec Samuel Pruvot, hein, qui est un membre éminent de cette communauté NKRM et qui est un spécialiste de la prédication de rue et qui est aussi rédacteur en chef de Famille Chrétienne. On avait décidé tous les deux de faire une école de prédication de rue. Et donc il y avait pas mal de jeunes qui participaient, avec évidemment beaucoup d'exercices pratiques, comme de monter sur un tabouret sur la promenade là, de la plage de Biarritz.
Ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait. et pour, bah, pour annoncer cette bonne nouvelle sans agressivité, sans prosélytisme mal placé aux gens qui passaient, qui s'arrêtaient ou qui ne s'arrêtaient pas. Et donc j'ai donné, dans le cadre de cette session, 5 conférences sur cette exhortation apostolique. Et puis, bah, c'est les audios que Samuel Pruvot a pensé que c'était important de publier, que l'édition première partie a mise par écrit. J'ai à peine eu le temps de le corriger, donc ça reste dans un style très oral. Et ce n'est pas un livre très abouti, mais bah, qui peut donner une petite impulsion au lecteur pour être de vrais disciples missionnaires pour aujourd'hui.
Dans la préface de Samuel Pruvot, on apprend que vous êtes un évêque ni de droite ni de gauche.
Ben c'est important qu'on soit ni de droite ni de gauche. On évite étiqueté, comme vous le savez, avec des catégories qui sont celles du monde, parce qu'on a des positions ici ou là. Mais moi, je considère qu'on n'est pas esclave de ces étiquettes mondaines et qu'on ne peut pas être ni de droite ni de gauche. Moi, je suis de l'Évangile.
Le titre est un peu provocateur, l'Église face au monde moderne, comme s'il y avait une opposition. Est-ce que c'est ce qui est dans le document ou est-ce que c'est juste un effet de titre ?
Mais ce n'est même pas moi qui ai choisi le titre, c'est l'éditeur qui a choisi ce titre et je les ai laissés faire.
Alors parlons de la transformation pastorale et missionnaire dans le diocèse. Il y a un groupe qui travaille sur cette thématique, sur ce sujet. Pouvez-vous nous dire où on en est ?
Alors, on en est à la réalité suivante. On va se revoir très prochainement justement pour faire un vrai bilan d'étape et donner une perspective à ce groupe qui aboutit à l'organisation d'une journée des prêtres au début du mois de janvier, axée essentiellement sur la fraternité, car il semble que la mission s'enracine effectivement dans la fraternité, que la première transformation de nos communautés passe par cette dimension fraternelle, comme nous accordons d'ailleurs à nous le dire souvent lorsque nous rencontrons entre évêques. Actuellement, il y avait deux groupes qui doivent encore rendre un petit peu leurs conclusions. Un groupe qui a participé à une rencontre à Lille, à l'initiative de l'archevêque de Lille, qui a rassemblé une quinzaine d'équipes diocésaines consacrées à la transformation pastorale. Donc il y a eu un beau partage d'expérience et on est sorti un bel élan. D'ailleurs, nous l'avons partagé aussi à l'Assemblée plénière dernière, et aussi un groupe qui travaille sur la formation, hein, donc à partir de ce que nous faisons déjà avec le parcours Cléophas, et un autre groupe auquel j'ai demandé de travailler sur les équipes d'animation paroissiale et les conseils pastoraux qui doivent être aussi des chevilles ouvrières dans nos communautés chrétiennes de ce renouveau missionnaire. Enfin, ce que nous aborderons à la prochaine rencontre, et j'y ai vu là aussi une belle opportunité providentielle pour booster cette transformation missionnaire, c'est la préparation du congrès mission qui aura lieu à Bercy pour la première fois en novembre et non pas en septembre 2025. Et donc il y a chez nous une déléguée donc diocésaine qui va essayer de sensibiliser les paroisses et de mettre en place des délégués pour que nous puissions, une prochaine année, eh bien, organiser plusieurs congrès missions locaux dans notre diocèse à des points plus stratégiques pour effectivement donner goût, hein, à cet élan missionnaire, à de plus en plus de fidèles engagés dans nos paroisses.
Nous sommes quand même toujours, malgré le décès du pape et malgré le conclave, nous sommes toujours dans l'année sainte de l'espérance, comme tous les 25 ans, une année sainte donc promulguée par le Saint-Père. Alors vous avez nommé des missionnaires de la miséricorde, de quoi s'agit-il ?
Mais, comme vous savez, l'année sainte c'est un moment privilégié pour faire l'expérience de la miséricorde du Seigneur, à travers en particulier la grâce de l'indulgence, hein, comme le dit le pape dans sa bulle d'indiction, l'espérance ne déçoit pas, l'indulgence, c'est un mot synonyme de miséricorde. Donc c'est, j'allais dire, l'accomplissement plénier de la miséricorde du Seigneur, en lien évidemment avec le sacrement de la miséricorde, qui est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et il suggère, dans sa bulle d'indiction, que l'on relance les missionnaires de la miséricorde, qu'il avait d'ailleurs lui-même nommés, dans le cadre du jubilé de la miséricorde en 2015. Vous vous souvenez de cette belle intuition de son pontificat. Et donc j'ai à nouveau nommé, avec leur accord évidemment, quelques prêtres qui seront missionnaires de la miséricorde, c'est-à-dire auxquels on pourra faire appel, ou les paroisses, les communautés chrétiennes pour faire appel, pour prêcher sur la miséricorde, sur le sacrement de la miséricorde, et éventuellement animer des veillées miséricorde à la demande de tel ou tel curé de paroisse.
Dans le cadre de l'année sainte, vous avez proposé un colloque pour la vie avec l'Académie diocésaine pour la vie. Est-ce qu'il y aura un colloque pour la diaconie ?
Bien sûr. Alors donc, vous savez que les responsables pastoraux des différentes pastorales des personnes les plus démunies, hein, ou les plus en détresse, a eu lieu il y a quelques mois, qui doivent donner aussi des initiatives, que ce soit dans le monde des prisons, dans le monde de la santé, dans le monde de la précarité, etc. Et comme vous le dites, en effet, il sera tout à fait possible d'organiser, d'autant plus que le diacre que j'ai ordonné, Stéphane Courteau, qui est responsable de la diaconie, est justement en train de mettre en place un vrai réseau au sein du diocèse, enfin, dans le prolongement de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais un réseau sur le plan de la diaconie qui pourra donner lieu, effectivement, à un colloque sur la diaconie.
Pour finir sur l'année sainte, il faut rappeler donc ce livret du pèlerin qui a été édité, qui est disponible dans les paroisses. Dans ce livret, vous développez vraiment ce thème de l'année sainte, et il y a beaucoup d'indications.
Pratiques,
sur les démarches jubilaires qu'on peut faire dans le diocèse.
Tout à fait. Et qu'on a commencé à faire, vous voyez, par exemple, l'Assemblée des évêques et vicaires généraux de la province a eu lieu à Bayonne la semaine dernière, donc au mois d'avril, et je les ai invités, depuis la maison de Seine, à faire une démarche jubilaire, puisque nous avons dit la messe dans la cathédrale, et donc nous avons marché jusqu'à la cathédrale, et on a fait la visite de la cathédrale selon les indications de notre petit livret, donc ça a été tout à fait sympathique.
Merci beaucoup, Mgr Agnès Hayé, merci beaucoup à Violaine Ricourt-Dumas, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet du diocèse, www.diocèse64.org. Merci beaucoup.
Merci.